Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du grain à moudre. Brice Couturier, Louise Touré avec une question ce soir. L'Égypte, modèle turc ou modèle iranien ?
Merci beaucoup Gilles Hervé. Alors à la technique, Sébastien Perron, Luc Jean-Rénaud bien sûr à la réalisation. C'est du grain à moudre.
Le grand Ibn Khaldoun, théorisant la politique du monde arabo-musulman au XIVe siècle de notre ère chrétienne, a conclu qu'un pouvoir ne durait en règle générale que durant trois générations. Les fondateurs, issus d'un clan uni par un système de solidarité très forte, Asabiyya, s'emparent de la cité et la conservent par la puissance des liens qui les relient entre eux, leur esprit de corps donc, et puis la puissance de leurs convictions. La deuxième génération apporte à la cité paix et prospérité et assoit sa légitimité sur le consentement. À la troisième génération, le pouvoir ne repose plus en général que sur la puissance d'un appareil de coercition armée. Mais ces forces sont composées de fonctionnaires, de mercenaires, sans conviction profonde et donc peu fiables. Le grand récit des fondateurs s'est émoussé et personne n'y croit plus. Les temps sont mûrs pour un nouveau groupe de conquérants audacieux unis autour d'un même récit. Comment ne pas être tenté d'appliquer ce schéma aux Nassérides d'Égypte ? Trois générations d'officiers supérieurs s'y sont succédés. Nasser lui-même s'empare du pouvoir en 1952 à la tête d'un petit groupe d'officiers libres unis par une idéologie associant nationalisme arabe et socialisme. 1970, Anwar el-Sadat lui succède sur un programme de paix avec Israël et d'élévation du niveau de vie. Le pouvoir d'Hosni Moubarak repose, lui, depuis 1981 et de plus en plus ouvertement sur l'intimidation. Les lois d'exception sont devenues de règles et sur les 8 millions de fonctionnaires travaillant pour le régime, 40% sont employés dans les services de sécurité. Alors, les temps sont-ils mûrs pour un changement de régime ? Selon le Carnegie Middle East Center, l'opposition civile au régime de Moubarak repose en réalité sur trois composantes. La jeunesse libérale, mobilisée par Internet mais dépourvue de structures d'organisation verticale, les syndicats ouvriers et enfin les frères musulmans. Ce sont les mieux organisés, mais la majorité de la population ne souhaiterait pas les voir au pouvoir. Eux-mêmes le savent, en sont conscients et se sont engagés dans le mouvement de contestation comme à reculons. D'autant que la confrérie fondée par Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, en 1928, est aujourd'hui traversée de multiples contradictions internes. C'est sur ces contradictions que nous avons aujourd'hui demandé leur lumière à des experts qui travaillent donc pour des laboratoires d'idées.
Trois experts avec nous ce soir. Jean-Sylvestre Montgrenier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au téléphone, on l'entend avec nous depuis Lille. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Vous êtes chercheur aussi à l'Institut français de géopolitique et auteur notamment de La France, l'Europe, l'OTAN, une approche géopolitique de l'atlantisme français. Ça s'était publié en 2006 et plus récemment, La Russie menace-t-elle l'Occident chez Choiseul en 2009. Dans ce studio, Salam Kawakibi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du laboratoire d'idées Arab Reform Initiative. Peut-être que là, on peut dire think tank. Et enfin, bonsoir Didier Billion.
Bonsoir.
Et vous êtes directeur des publications Aliris et rédacteur en chef de la revue internationale et stratégique.
Alors revenons donc sur ces fameux frères musulmans. Je disais, il y a des contradictions internes. On verra les contradictions proprement politiques que j'ai essayé de figurer à travers les deux modèles les plus extrêmes, le modèle turc et le modèle iranien. Mais parlons d'abord d'une contradiction plus profonde entre une tendance sociale qui aurait pris le dessus sur la tendance plus politique, notamment depuis la grande répression de 2005, la répression du printemps du cœur par Moubarak. Patrick Henny, qui est un bon spécialiste de la région, dit dans l'hebdo suisse, dans l'hebdomadaire suisse qu'ils appellent l'hebdo, je le cite, le mouvement se retrouve paradoxalement projeté sur le devant de la scène politique alors qu'il avait entamé un mouvement de retrait par rapport aux politiques. C'est assez bizarre cette façon, qu'est-ce que vous en pensez Didier Billon, cette façon pour les frères musulmans d'être obligés de prendre quelque part le train en marche alors qu'ils faisaient figure de principal opposant à Moubarak jusqu'aux mois les plus récents.
Oui, il y a tout d'abord des contradictions internes dans le mouvement des frères musulmans que vous avez évoquées, puisqu'on peut considérer, sans tomber par des explications de type générationnel, mais quand même cela compte, la vieille garde des frères musulmans, si vous me passez l'expression, qui est plutôt sur une ligne éminemment conservatrice et qui est surtout sur une ligne de, d'islamisation de la société égyptienne par le bas. Phénomène d'ailleurs qu'on peut constater dans d'autres pays. Et puis vous avez la jeune garde, et là aussi vous me passerez l'expression, je mettrai des guillemets, qui elle finalement est peut-être plus en prise avec les évolutions de la société égyptienne, sous ses multiples facettes, et qui continue pour sa part à privilégier le combat politique et la prise du pouvoir d'État. Nous savons que ces tendances se sont affrontées, même si nous n'en avons pas tous les détails, et lors du dernier congrès des frères musulmans, c'est finalement la tendance conservatrice, la vieille génération, qui semble avoir emporté une victoire politique, au moins temporaire.
Donc plutôt les réseaux sociaux que l'action politique.
Islamisation par le bas, avec des réseaux extrêmement importants dans les quartiers, les villages, etc. D'ailleurs, au passage, moi je pense qu'il y avait depuis déjà de nombreuses années une sorte d'accord tacite entre les frères musulmans et le pouvoir de Moubarak. Je dis bien tacite. Parce que finalement, Moubarak considérait que l'islamisation par le bas, tant que cela n'affectait pas les organes de sécurité, il laissait faire. Donc le deal, c'était de laisser les frères musulmans islamiser la société, mais surtout ne pas toucher aux appareils de sécurité. Et alors, comme on l'a vu au tout début du mouvement en Égypte, il y a donc à peine plus de 2 semaines, les choses vont extrêmement vite, la première action des frères musulmans, de la direction, n'a pas été d'appeler aux manifestations. Au bout de la première manifestation, 15 000 manifestants, vous vous rappelez, 15 000. On pensait déjà à l'époque que c'était important. Depuis, les chiffres ont explosé, et tant mieux.
Plus d'un million,
à 2 reprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 2 jours après la première manifestation, les frères musulmans ont dit « Nous n'appelons pas à la deuxième, mais nous n'empêchons pas nos jeunes militants d'y participer ». C'est un peu hypocrite, mais enfin, c'est ainsi qu'ils ont pris le train en marche et que depuis lors, incontestablement, ils sont partis à la mobilisation et tout dernièrement, ils sont même partis à la négociation puisqu'ils se rendent auprès du vice-président égyptien, M. Souleymane.
Alors, ils négocient, ils existent, ils sont structurés à tel point qu'ils sont même divisés, on vient de l'entendre. Mais finalement, qui représentent-ils et que représentent-ils? Quel poids en Égypte par rapport aux autres forces? Ça, j'aimerais qu'on y revienne un peu en détail, Salam Kawakibi.
Il représente une bonne partie de l'opposition politique. Parce que malheureusement, les autres composantes de l'opposition politique n'ont presque aucune structure. Depuis pas seulement Moubarak, depuis sa date, ils ont été démantelés en grande partie aussi en s'appuyant sur les mouvances religieuses de la part des autorités politiques. J'ajoute une chose, que la rue, les jeunes frères musulmans dans la rue actuellement sont en décalage par rapport à leurs dirigeants. Et déjà, au sein des dirigeants, il y a plusieurs courants. On vient de citer au moins 2. Mais en plus, la rue, les jeunesses dans la rue, sur la place Tahrir, ne reçoivent plus leurs ordres. Ils le disent clairement. Nous n'avons plus d'ordres à recevoir de nos dirigeants. Surtout qu'en ce moment, il y a un sentiment, et j'espère que c'est un sentiment qui ne va pas se réaliser, c'est que le régime égyptien, qui continue à résister avec Omar Suleiman ou avec d'autres, essaye, comme tous les régimes arabes autoritaires ont voulu faire et ont réussi des fois à faire, de récupérer la mouvance religieuse, essayer de lui donner quelques avantages en ayant en vision la destruction totale du mouvement et la destruction totale de la révolte dans la rue. Et là, c'est le jeu des frères musulmans à faire très attention de ne pas se faire récupérer et réinstrumentaliser par le pouvoir de Omar Suleiman.
Parce que je reviens un petit peu sur ma question et je vais citer le même chercheur que Brice Couturier, Patrick Henny, qui dit qu'en cas d'élection libre, des estimations des scores des frères musulmans seraient de 25 à 30%.
Moi, j'ai un autre chiffre, Louise. Les frères musulmans, ce n'est pas une hypothétique, ce n'est pas une hypothèse, c'est les élections législatives qui ont eu lieu en 2005. Et sous l'étiquette d'indépendants, les frères musulmans ont raflé 88 des sièges sur les 150 circonscriptions dans lesquelles ils s'étaient présentés. Donc, la majorité d'entre eux. Donc, les chiffres sont sujet à discussion.
Ça dépend du système ça dépendra du système électoral. Parce que maintenant, tout le travail des experts constitutionnels et les comités des sages, c'est de réformer le système électoral et le rendre proportionnel. Au moment où le système électoral va devenir proportionnel, ils auront beaucoup moins de pourcentage, mais ils resteront une force importante.
Alors justement, il y a un think tank américain qui est d'ailleurs classé le meilleur au Moyen-Orient dans le dernier sondage dont on parlera en fin d'émission, le Carnegie Middle East Center qui est basé à Beyrouth, qui est donc le premier think tank du Moyen-Orient. Sur ce think tank, Paul Salem, qui est un de ses auteurs, recommande la création d'un Conseil national de sécurité sur le modèle de celui qui a été créé en 1960 en Turquie et qui a donc permis de fournir un cadre de négociation aux autorités civiles et militaires pour négocier une transition pacifique. Et le même auteur, Paul Salem, recommande, comme vous venez de le faire, d'adopter un système électoral au scrutin proportionnel. Pourquoi ? Parce que si des élections avaient lieu au scrutin majoritaire, celui que nous avons en France par exemple, eh ben, les frères musulmans, écrit-il, qui sont minoritaires dans le pays mais qui affronteraient des partis laïcs divisés, l'emporteraient haut la main et emporteraient peut-être la quasi-totalité des sièges. Donc on voit bien qu'effectivement, les frères musulmans sont peut-être proches, comme le disait Louise Tourette, 25%, 30%, 33%. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de sondage véritablement crédible sur la scène politique égyptienne. D'autant qu'elle est mouvante et que d'ici les élections, bien des choses peuvent se produire. Mais dans la mesure où les autres forces politiques sont extraordinairement divisées, en cas de scrutin majoritaire, les frères musulmans pourraient l'emporter. Mais le souhaitent-ils ? Et c'est bien là une des vraies questions de cette situation politique égyptienne compliquée. Est-ce qu'ils le souhaitent vraiment, Jean-Sylvestre Mongrenier, si les élections leur donnaient le pouvoir, l'accepteraient-ils ?
Oui. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur effectivement les débats à l'intérieur des frères musulmans. On y retrouve les tensions qui sont internes finalement à l'islam politique, à les stratégies de contournement de pouvoir autoritaire par le bas. Et puis, bon, il y a ceux qui voudraient entamer une conquête directe du pouvoir par le haut. Bon, là, il y avait un pouvoir et il y a toujours un pouvoir à caractère autoritaire qui est fort. Et il y a eu une adaptation des frères musulmans finalement à cette situation, mais dans des périodes antérieures. On les a vus donc en tant que mouvement politique constitué quand même fort et à l'occasion violent. Hein. En 1948, on a eu un premier ministre égyptien, par exemple, qui avait été assassiné par un frère. Bon, alors après, il y a l'assassinat de Sadat, c'est pas directement les frères musulmans, ouais, c'est un groupe qu'on devait appeler le djihad islamique, plus ou moins dans la mouvance et en même temps dissident. Donc il y a ces tensions qui sont internes aux frères musulmans. Ils ont été autorisés à nouveau en 1984, donc on suppose que pour qu'il y ait cette autorisation, mais uniquement finalement dans le champ de la société civile, si tant est qu'on puisse parler de société civile, il a bien fallu qu'il y ait des négociations. Donc finalement, dans le rapport avec le pouvoir en place, hein, il y a un mixte de répression et de connivence par la force des choses. Ça ne peut pas être autrement et on peut penser que le vice-président Souleymane, effectivement, les connaît très bien et cherche à actionner un certain nombre de leviers pour pouvoir les cannibaliser. Alors ensuite, c'est sur quoi je voudrais insister, c'est que ça représenterait quand même, les chiffres sont assez variables, mais 3-4 millions de personnes. Et c'est quand même apparemment la seule force organisée extérieure à l'appareil d'État. Donc certes, hein, ils ont pris le train en marche, ils ont un petit peu tardé parce qu'ils s'étaient installés finalement sur d'autres créneaux d'action, plus sociopolitiques que politiques pures, mais il me semble qu'ils ont la capacité éventuellement de prendre la direction du mouvement si les opportunités se précisent. L'appétit vient en mangeant finalement, ouais, qu'il y ait des débats internes, qu'il y ait des hésitations, que ce ne soit pas forcément tout à fait les mêmes personnes qui ressortent en fonction des situations, certainement, mais s'il y a un vide de pouvoir à un moment donné, la nature ayant horreur du vide, s'il y a bien quelqu'un, s'il y a bien un groupe qui est capable d'exploiter au mieux ses opportunités, ce sont les frères musulmans.
Jean-Sylvestre Mongrenier, vous parliez donc de la société civile. On aimerait comprendre non seulement à quoi elle ressemble, mais quelle capacité a cette société à structurer des forces politiques nouvelles aujourd'hui. On voit émerger des figures, hein, comme ce nouveau héros, Wael Ghanim, cet employé de Google qui a été donc libéré hier soir et qui est fêté en héros sur la place Tahrir parce que voilà, il a fait un groupe Facebook qui a fédéré énormément de gens. En même temps, bon, c'est une personnalité qui devient tout à coup très médiatique. Vraiment, profondément, est-ce qu'on peut penser, voir se créer des partis et des partis qui soient un peu représentatifs? Didier Billion.
Évidemment qu'il y aura des partis politiques qui vont se créer, à moins qu'il y ait un bain de sang, mais je ne crois vraiment pas que ce soit la logique actuelle. Ah, mais bien sûr. Moi, je pense que la situation actuelle est révolutionnaire. Est-ce qu'il y aura-t-il une révolution victorieuse? Nul ne le sait à ce jour. Et je ne crois de toute façon pas qu'il y aura la possibilité ou l'éventualité d'un vide du pouvoir, parce que l'armée ne laissera pas le vide du pouvoir. Par contre, il peut y avoir des solutions de compromis. Et comme dans toute période révolutionnaire, des partis, des associations, des organisations vont se constituer parce que ce mouvement ébranle toutes les habitudes. Et il est juste de considérer...
On n'arrête pas d'entendre que les frères musulmans sont la seule force constituée. La seule force constituée, vous-même.
Mais
même
en
vous
deux
dites
semaines,
aujourd'hui...
vous imaginez-vous les progrès? Un vice-président a été nommé alors que Moubarak s'y refusait depuis 30 ans. Le gouvernement a dû démissionner. Moubarak a déclaré qu'il ne se représenterait pas. Gamal, qui était le successeur désigné, a été éjecté du champ politique et on pourrait multiplier les choses. Cela va très vite. Alors, à ce stade, évidemment, parce qu'il y a antériorité, les frères musulmans sont probablement les mieux structurés. Mais ils ne le resteront pas. Et ce qui est important, c'est que le mouvement révolutionnaire lui-même, le processus révolutionnaire, va ébranle déjà les frères musulmans. Et il y aura probablement des recompositions à l'intérieur. Ça, c'est très important. Mais sur leur influence... Quand on parle de société civile, n'oublions pas une chose, parce qu'il y a souvent une image dans les puissances occidentales des islamistes un peu obscurantistes ou un peu barbus. En réalité, quand on regarde ce qui se passe dans tous les ordres corporatistes, les avocats, les médecins, les dentistes, dans les universités, lors des élections universitaires, ce sont systématiquement les associations proches des frères musulmans qui remportent des victoires. Il y a aussi, par exemple, au moment du Ramadan, au moment de la rupture du jeûne, des repas qui sont offerts à la population, notamment dans les quartiers déshérités. Ce sont souvent des notables, des médecins, des avocats, etc., des notaires, qui sont liés aux frères musulmans. Donc les ramifications sont extrêmement importantes. Et quand on dit structurer, ce n'est pas pour se faire peur, c'est une réalité politique et sociale. Et aucun autre parti, sauf le PND de Moubarak, ne pouvait structurer la société ainsi à cause de la répression. Mais ça, si je fais peu de paris politiques en général, mais si je fais un pari politique, je suis à peu près certain de le gagner, c'est qu'évidemment, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, de nouvelles formes d'organisation et de nouvelles organisations vont apparaître. Mais je dis bien les deux, de nouvelles organisations et de nouvelles formes d'organisation, parce qu'il y a cette jeunesse. Il y a Facebook, il y a les réseaux Internet. Je ne veux pas les survaloriser, mais c'est un fait. Et donc, les formes de
Ça peut déboucher sur les partis politiques, des réseaux horizontaux comme ceux de Facebook.
Mais les partis existent déjà. Il y a des partis qui existent déjà, qui pourront être le cadre idéal pour la réorganisation de la vie politique égyptienne.
Par exemple
Le parti Al-Rad, il y a le Waft, le parti de l'indépendance. Il y a aussi, c'est-à-dire le parti qui a donné l'indépendance, il s'appelle Al-Waft. Vous avez aussi Al-Rad de Ayman Nour. Vous avez aussi le mouvement Kifaya qui regroupe des jeunes islamistes, des jeunes communistes, des jeunes libéraux. Et tout ça cogite maintenant. Et je crois que les frères musulmans se rendent compte de cette réalité et ils vont observer le développement des partis avec beaucoup d'attention et vouloir s'associer à quelques courants qui soient de gauche ou de droite libérale, sans pour autant exclure quiconque. Ils sont conscients la répression.
Les frères musulmans, ils sont de droite ou de gauche?
Pardon?
Les frères musulmans, ils sont de droite ou de gauche? Question fantastique quand même.
Ils sont
on
de
nous
droite.
Dit qu'ils sont conservateurs. Ouais.
Ils sont de droite. Ce sont en point de vue économique, ce sont les plus libéraux qu'on peut imaginer. Et c'est pour cela qu'ils ont même des affaires avec beaucoup d'entreprises européennes et américaines, sans pour autant impliquer l'idéologie ou l'islamisme là-dedans.
comme l'AKP en Turquie finalement. 18h39 exactement sur France Culture, c'est du grain à moudre. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le mercredi des think tanks, donc nous en recevons trois d'entre eux. Il s'agit donc de Jean-Sylvestre Montgrenier qui représente ici l'Institut Thomas, enfin il le représente par téléphone, l'Institut Thomas More. Salam Kawakibi que vous venez d'entendre, il représente lui Arab Reform Initiative, et comme dit Louis Touré, effectivement c'est le seul qui mérite le nom de think tank puisqu'il s'énonce en anglais. Je pense que l'Iris préférera que représenté ici par Didier Billon, préférera, comme nombre de nos éditeurs qui nous écrivent pour nous le dire, l'appellation laboratoire d'idées. Louise Touret.
Oui, Jean-Sylvestre Montgrenier, on ne vous a pas donné la parole donc sur ce petit exercice de politique fiction qu'on demande ce soir à nos invités, sur les structurations possibles des nouvelles oppositions en Égypte. Et puis, pour ajouter une question à la question, de quelle inspiration pourrait-elle être? Et est-ce que là, le modèle turc paraît être intéressant?
Oui, donc effectivement, il y a une effervescence et de cette effervescence, il y a beaucoup de choses qui peuvent naître, d'autant plus que effectivement, il y a quand même déjà un certain multipartisme. Il y a eu des périodes de relative ouverture en 2005, sous pression américaine, sous pression d'administration Bush, Moubarak avait quand même un petit peu ouvert le jeu. Et puis, si on met les choses en perspective, ça a été un petit peu fait quand on a parlé du WAFT, du néo-WAFT. Dans la durée, il y a eu un moment pendant l'entre-deux-guerres en Égypte, il y avait un véritable jeu parlementaire, il y avait un début de tradition parlementaire, donc le WAFT.
Mais ça c'est une période très très lointaine pour une population qui est très jeune en Égypte.
Oui, les traditions, ça compte. Si on les entretient, si on y revient, donc effectivement, c'est vrai que vous avez raison d'insister sur le renouvellement de la population. Hein. Et, en 1945, il devait y avoir 18-19 millions d'habitants en Égypte. Aujourd'hui, on est à 85. Hein, donc c'est sûr que l'Égypte d'aujourd'hui, elle a plus grand-chose à voir avec celle qu'on peut voir représentée dans Black et Mortimer, hein, le secret de la Grande Pyramide. Donc c'est sûr que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, toute cette transition démographique, toute cette transition urbaine, tout ce renouvellement. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, malgré tout, il y a un minimum quand même de multipartisme, et puis ça peut servir de base pour la reconstitution donc d'un système de partis beaucoup plus vivant. Oui, effectivement. Bon, maintenant, il y a quand même en l'état actuel des choses, il y a quand même effectivement les frères musulmans qui ont un temps d'avance et ça leur donne quand même un avantage comparatif par rapport à d'autres forces. Alors après, effectivement, alors moi je suis réservé sur droite, gauche. Déjà, bon, en dehors de la France, dans des pays proches d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord, on ne peut pas dire que ça fonctionne toujours, hein, cette grille de lecture droite-gauche. Alors, au Moyen-Orient, droite-gauche, conservateur, réformateur, je suis toujours un petit peu sceptique, hein, quand on va dire qu'Ahmadinejad, par exemple, en Iran, est un conservateur. Je ne sais pas bien à quoi on fait référence, si ce n'est qu'on veut dire par là que conservateur, finalement, c'est ceux qui sont un peu coincés, un peu méchants, etc. Il n'y a pas grand-chose
à voir avec les...
Jean-Sylvestre Montgrenier,
on peut quand même remarquer une chose assez frappante, c'est que l'AKP turc, qui sert quand même de modèle et de référence à de nombreux mouvements islamistes conservateurs à travers le monde arabe et arabo-musulman, est effectivement un parti conservateur. On a fait souvent le parallèle entre l'AKP et la démocratie chrétienne allemande ou italienne, c'est-à-dire des gens qui en même temps sont favorables à la liberté du marché, au libre marché, à l'entreprise privée, donc qui sont de droite de ce point de vue-là, parce qu'ils sont libéraux, et en même temps des gens qui font référence à une morale, à une intégrité dans les affaires, par exemple, ce qui est aussi le cas des frères musulmans, qui sont extrêmement du côté de la vertu. Et ça m'amène à la question que je voulais poser aux trois intervenants autour de cette table, qui est la question qui sert de titre à cette émission ce soir. Modèle turc ou modèle iranien? Parce que si, Louise Touré ne l'a pas encore dit, mais je savais qu'elle le préparait, 66% dans un sondage, je ne sais pas si tu as le même, Louise, un sondage récent montre que dans tous les pays arabes, quand on leur demande qu'est-ce qui est le plus tentant, c'est le modèle turc.
Alors je précise que c'est un sondage qui a été réalisé par un institut turc dans plusieurs pays, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Liban et la Syrie, ainsi que dans les territoires palestiniens. Et donc, dans ces pays, on voit la Turquie comme un modèle de développement, également un modèle politique. C'est dommage, on n'a pas le détail pays par pays dans la dépêche.
Ça serait intéressant d'avoir vu l'Égypte. Mais je précise qu'au même moment, on a cet appel assez inquiétant du régime iranien, l'Iran, qui dans un message du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui s'adressait en arabe, hein, et, pas en persan pour la première fois, donc c'est pas rien, comme sur le plan des symboles, et dit aux Égyptiens, ne reculez pas avant l'instauration d'un régime populaire fondé sur la religion. Hein, donc on voit bien que d'un côté, il y a les Turcs qui se présentent comme un modèle possible de république laïque dirigée par des musulmans. De l'autre côté, il y a les Iraniens qui, eux, continuent à prôner un modèle théocratique. Alors, qu'est-ce qui domine au sein de ces frères musulmans, d'après vous, Salam Kawakibi?
Je crois déjà qu'il y a, comme on parlait de droite et gauche, qu'il y a un courant quand même au sein des frères musulmans qui est plutôt de gauche. Ça, il faut le souligner. Et ils ont développé une littérature économique et sociale qui, même, il y avait un livre d'un dirigeant des frères musulmans en Syrie. On sait très bien que c'est un mouvement pan-islamique qui s'appelait l'islam socialiste. Alors ce courant existe et ce courant existe surtout au sein de la jeunesse des frères, beaucoup plus qu'au sein de la classe dirigeante actuelle. Ensuite, pour parler de la Turquie, moi je ne vois pas un modèle turc parce que la Turquie, il faut savoir que la société est fortement laïque. Et que la société, même croyante, mais elle est fortement laïque et imprégnée par le système laïque, sociétal, économique et culturel. C'est pas du tout le cas en Égypte. La société égyptienne est fortement religieuse. Qu'elle soit des frères ou du parti communiste, les gens arrêtent leur réunion du comité central du parti communiste ou les partis de gauche pour aller faire leur prière. Alors c'est une société fortement religieuse et croyante. Et là, le modèle turc, moi je constate seulement, et pas seulement dans le cas égyptien, que le modèle turc est très important à être observé sur le système. Comment on peut intégrer la démocratie dans la pratique des mouvements religieux, mais pas dans la gestion de l'État. Parce que la gestion de l'État en Turquie n'est pas à base religieuse. Le parti, il a des concepts religieux dans son idéologie, mais il fait une pratique laïque de la politique.
Et devenir un État laïque pour l'Égypte, c'est à peu près impensable, en tout cas vraiment pas tout de suite, Didier Billion.
Oui, je pense que comparaison n'est jamais raison et que je crois qu'on ne peut pas parler de modèle en tant que tel, puisque en Turquie, il faut quand même rappeler que l'expérience démocratique et ce que j'appellerais la transition démocratique date très précisément de 1950. C'est-à-dire que c'est les premières élections pluralistes avec alternance. Il y a donc 61 ans. Donc depuis lors, nous savons que la démocratie turque a connu quelques soubresauts. Il y a eu quelques coups d'État, malheureusement. Mais en même temps, il y a cette pratique parlementaire, un État de droit, un jeu politique très ouvert. Et par ailleurs, il faut savoir que le courant de l'islam politique en Turquie a émergé et s'est intégré au jeu politique à la fin des années 60. Le premier parti qui se réclame de l'islam politique en Turquie, c'est en 1969. Que depuis lors, ils ont eu des députés, ils gèrent des villes, ils ont des ministres, ils ont eu des ministres, même un premier ministre en la personne de Necmettin Erbakan. Donc tout cela, ça compte beaucoup. C'est une appropriation des forces de l'islam politique, de la démocratie parlementaire. Et en échange, dialectiquement, cette démocratie parlementaire a en quelque sorte banalisé les forces de l'islam politique. Donc ça, c'est le produit d'une expérience historique qui fait suite à la rupture radicale qui avait été voulue par Mustafa Kemal dans les années 1920-1930. Donc nous n'en sommes pas là en Égypte. Indépendamment même des projets politiques variés qui peuvent exister parce qu'il y a des partis encore infiniment minoritaires mais qui vont se renforcer puis d'autres vont surgir, mais ils ne feront pas l'économie de l'apprentissage de ce processus démocratique parce que la démocratie ça ne s'impose pas par un coup de baguette magique et c'est tout logique. Donc modèle, je le prends avec précaution.
Mais Didier Billion, excusez-moi de vous couper la parole. Il y a quand même, on vous suit bien quand vous dites il y a une démocratisation de la société qui avait eu lieu depuis Atatürk en réalité en Turquie, qui n'a pas eu lieu. Ça n'a pas été le fait de Nasser en Égypte. On vous suit. Mais il y a un point sur lequel la comparaison avec la Turquie va s'imposer très vite en Égypte, c'est le face-à-face entre les islamistes et l'armée. Et on a bien eu, en Turquie, on a bien eu également les militaires. C'est pour ça que je parlais de cette proposition faite par le Carnegie Middle East Center, qui était de créer un conseil de sécurité dans lequel militaires gradés et personnalités de la société civile pouvaient dialoguer pour progressivement que les militaires laissent la place aux civils. Parce que une des hypothèses du scénario égyptien, c'est si les frères musulmans ne veulent pas du pouvoir et que le chaos menace, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Elle y est déjà en réalité.
Oui.
Donc, de ce point de vue-là, le scénario turc, enfin, le modèle turc peut jouer aussi dans le sens d'une prise de pouvoir progressive d'un pouvoir civil face à des militaires qui seraient trouvés provisoirement obligés d'occuper le pouvoir.
Peut-être techniquement. Mais... techniquement.
Salam Kawakibi.
Ce conseil de Carnegie, techniquement, peut-être est probable, un conseil de sécurité. Mais en réalité, il y a aussi une grande différence entre la structure militaire turque, la structure idéologique de l'armée turque et la structure idéologique de l'armée égyptienne. On ne peut pas considérer l'armée égyptienne comme étant une armée qui va protéger les principes laïque de l'État, parce que déjà c'est pas très clair ni dans la constitution ni dans ses pratiques à elle. On trouve beaucoup de courants aussi, les officiers égyptiens, c'est pas comme dans l'armée turque qu'on a interdisé les officiers de prier en Égypte.
On les rasait en Turquie, hein.
On les rasait
la barbe, hein.
En Égypte c'est tout à fait le contraire. Alors et de plus, je crois, et je parle sous le contrôle de Monsieur Billon, c'est que l'armée turque est moins corrompue que l'armée égyptienne. Elle était moins corrompue. Elle était impliquée peut-être dans les affaires et l'économie, mais pas au point de la corruption de l'armée égyptienne.
Jean-Baptiste Montgrenier, vous avez donné donc à l'Institut Thomas More plusieurs études assez intéressantes sur le système Moubarak. Vous parlez notamment de Al-Baradei. Un bon moment, on a vraiment cru que c'était l'homme de la situation, et on a aussi écrit dans certains think tanks américains notamment que c'était peut-être un idiot utile de l'islamisme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je l'ai écrit aussi idiot utile, mais en posant la question, je ne me hasarderai pas à répondre positivement. Mais bon, il me semble qu'il y a un côté un petit peu justement feu de paille, un côté superficiel. C'est pas parce qu'on a une certaine notoriété sur la scène internationale, dans des milieux autorisés, qu'on représente une force sur le terrain. Donc, je ne pense pas qu'il soit véritablement en mesure de devenir un chef politique et puis de prendre véritablement les affaires en main. Mais je voudrais revenir un petit peu, si vous le voulez bien, sur ce dont on débattait avant. Effectivement, je pense que sur la question de la Turquie, il y a le facteur temps, hein, déjà. Donc Didier Billon l'a souligné, hein, c'est pas des choses qui s'improvisent. Effectivement, avec Internet, Facebook, on a l'impression que tout va vite et puis que tout peut être l'objet d'un transfert de technologie très rapide, y compris sur le plan institutionnel, politique, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, sur l'AKP, est-ce qu'on a encore suffisamment de recul pour juger véritablement de la chose? Bon, c'est vrai que ça va faire pratiquement 10 ans qu'ils sont au pouvoir, mais ce qui m'a frappé quand même dans le cas de l'AKP, c'est qu'il y a eu beaucoup de storytelling, là, pour reprendre une expression américaine, hein. C'est-à-dire du jour au lendemain, à partir du moment où il y a eu cette fraction, d'une partie donc de l'appareil du Refa, hein, donc d'Erbakan, hein, qui représentait l'islam politique jusqu'alors, qui l'a quitté en 2001 pour fonder l'AKP. Du jour au lendemain, on nous a expliqué que c'était une forme de démocratie chrétienne, donc à la mode musulmane. Donc là, je reprends ce que disait Didier Billon, les comparaisons n'est pas raison, hein. C'est pas parce que on mixe de l'économie de marché, on mixe des références aux valeurs religieuses, que tous les mouvements à caractère politico-religieux vont être comparables à la démocratie chrétienne. Et puis il y a quand même pas mal de questions en Turquie. J'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de chercheurs, d'universitaires en Turquie, qui se posent des questions finalement sur ce que va faire l'AKP, ce que ça représente finalement dans les mois et les années à venir. Parce que jusqu'ici, il y avait quand même un certain nombre de garde-fous qui progressivement ont été levés, notamment avec le référendum de septembre 2010. Et il y a des gens en Turquie qui se soucient d'un éventuel agenda caché, qu'est-ce que ça va donner par la suite. Enfin bon, il me semble qu'il faut regarder les choses avec attention et il ne faut pas transformer d'un seul coup l'AKP en solution pour l'ensemble du Moyen-Orient. Alors maintenant, quand on parle de modèle turc au Moyen-Orient, il faut voir aussi une dimension beaucoup plus matérielle, parce que la Turquie montre finalement un certain nombre de sociétés moyen-orientales aussi. C'est un modèle de croissance, un modèle de consommation. Là, effectivement...
Un modèle économique.
Oui, voilà, il y a eu une croissance économique remarquable. Il y a effectivement des classes. Bon, aujourd'hui, c'est le plus fort taux de croissance économique de l'OCDE. C'est un pays qui est membre du G20. Ça doit être la 16e ou 17e économie mondiale. Ça doit être un peu mieux, même si on prend uniquement en compte le critère industriel. Il y a des classes moyennes qui émergent, qui accèdent à la consommation. Tout ça, ça fait partie du produit d'appel. C'est pas simplement politico-institutionnel.
Un dernier mot, une dernière question avant de faire un tour de table pour vous demander sur quoi vous travaillez actuellement, quels sujets sont à l'étude dans vos laboratoires d'idées. La place des femmes, parce que quand on parle de la Turquie, et on y est très sensible, Brice Couturier et moi, ou même quand on parle de la Tunisie, on parle aussi de pays où la laïcisation, la laïcité a fait son travail et a donné une place aux femmes dans la société qu'elles n'ont pas du tout en Égypte. En Égypte, on a plutôt vu la place des femmes reculer. Il suffit de se balader dans les rues du Caire pour s'en apercevoir. Est-ce que là-dessus, il y a des espérances? Est-ce qu'il y a des groupes qui, en ce moment, manifestent? Est-ce que la société va aussi chercher là-dessus des évolutions? Il y a une demande citoyenne, sociale. Salam Kawakibi.
Je crois qu'il faut pas se fier aux apparences. Le nombre des femmes voilées dans les rues, ça ne doit plus nous donner une idée.
Enfin, il y a aussi la production culturelle. Voilà. Il y a eu un cinéma où on voyait des actrices qu'on n'a plus vues.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de choses.
Tout à fait.
Il y a beaucoup d'artistes femmes en Turquie, par exemple.
La situation est différente. Et il faut savoir aussi que l'époque... et moi, je reviens à l'introduction quand on a dit la dynastie Nasséride, qu'on a commencé par Nasser, on a suivi par Sadat et Moubarak. Moi, je ne considère pas du tout que Sadat et Moubarak font partie de la génération Nasséride. Au contraire, ils ont avorté, ils ont même tué l'exemple Nasséride qui avait beaucoup de défauts, mais quand même, au niveau culturel et sociétal, il était beaucoup il a développé beaucoup d'espace d'expression. La plus grande majorité de la production culturelle et intellectuelle égyptienne de qualité a eu lieu ces temps-là. Je crois que la place de la femme égyptienne, c'est aux Égyptiens maintenant, qu'ils soient islamistes ou de gauche ou libéraux, égyptiennes, tout à fait, de la développer. Et juste une remarque, on a toujours parlé de l'harcèlement sexuel dans les rues du Caire. Maintenant, avec 1 million de manifestants et manifestantes dans les rues, il n'y a pas eu un seul accident. Alors la conscience politique, le retour de la politique au peuple, change beaucoup les choses.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. On a une minute pour vous demander sur quoi vous travaillez.
Non, d'abord,
en ce moment.
J'aurais juste mentionné que l'Observatoire français des think tanks, classement mondial, parce que c'est le mercredi des think tanks, donc il faut parler un petit peu des think tanks français et de leur production par rapport au reste du monde. Il y a un site en ligne qui s'appelle l'Observatoire français des think tanks et qui titre cette semaine classement mondial des think tanks, la France en queue de peloton. C'est sévère puisque certains de nos laboratoires d'idées figurent tout de même dans ce classement, ce palmarès qui s'appelle, vous pouvez les regarder parce qu'on a donné la référence sur notre propre site, Global Go-To Think Tanks 2010. Alors c'est notamment le cas de l'IFRI, je suis désolé pour vous, Didier Billon, qui représentait ici l'IRIS, mais l'IFRI, Institut français des relations internationales, votre grand rival, apparaît comme le mieux placé, 14e des meilleurs think tanks mondiaux non américains et 3e meilleur think tank en Europe occidentale. Et il faut quand même noter que nos laboratoires d'idées nationaux ne figurent dans aucune des listes thématiques, aucun français dans les think tanks consacré aux politiques du développement, de la santé, de l'environnement, etc. Félicitations toutefois à deux think tanks français, Terra Nova et la Fondapol, qui sont respectivement classés 19e et 23e dans le palmarès très spécialisé des think tanks liés à des partis politiques. Alors comme l'un s'affirme résolument progressiste et l'autre résolument libéral, mais que tous les deux jurent leur grand Dieu qu'ils ne sont alignés ni sur le PS pour le premier, ni sur le MP pour le second, ils apprécieront d'être classés dans le palmarès des think tanks liés à des partis politiques, Louise.
Voilà.
Mais l'IRIS est classé 25e sur les questions de défense et de sécurité.
C'est bien de le dire.
Didier Billon, alors sur quoi travaillez-vous? Puis après, on repassera la parole à Salam Kawakibi en ce moment.
Eh bien, moi, je travaille, c'est le sujet qu'on a à peine effleuré, sur la question de la politique extérieure de la Turquie, de son influence dans le monde arabe et comment les bouleversements du monde arabe, au moins en Tunisie et en Égypte, peuvent influencer en retour les axes de la politique extérieure de la Turquie.
Salam Kawakibi.
Nous travaillons surtout en ce moment sur un projet ambitieux concernant la réforme du secteur de sécurité dans les pays arabes. Et aussi, nous produisons le rapport annuel sur l'état de la réforme dans les pays arabes. Et avec d'autres aussi projets.
État de la réforme, il doit y avoir beaucoup de choses à dire, effectivement.
Il y a beaucoup de travail.
En ce moment, il y a beaucoup de travail. Jean-Sylvestre Mongrenier, enfin, à l'Institut Thomas More.
Les questions de défense européenne, les rapports avec la Russie, et puis par extension, donc, tout ce qui est Turquie, Moyen-Orient, et j'ai des collègues qui travaillent sur tout ce qui est Sahara occidental, bande sahélo-saharienne, Union pour la Méditerranée, ça fait partie également d'un autre thème qui est privilégié.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On met évidemment les liens vers vos laboratoires d'idées sur le site du Grain à Moudre. Demain, nous parlerons de justice. Le pouvoir exécutif a-t-il le droit de critiquer l'autorité judiciaire avec deux invités, Jean-Paul Garot, député UMP, et Dominique Rimbourg, député PS. Et puis dans les matins de France Culture, Vincent Lemaire recevra Emmanuel Todd, politologue, démographe, historien, sociologue. Il a effectivement beaucoup de casquettes. Et ils se poseront une question: les sociétés arabes s'occidentalisent-elles?
C'était Du Grain à Moudre, une émission proposée par Louise Touret et Brice Couturier, équipe de production Nathalie Lempereur, Avril Ventura, Flaminia Padeu et Francesca Fossati. Il est 19h presque pile sur France Culture. Laurent Goumard va être content de nous faire savoir ses invités de ce soir. Pour ses invités, à vous Laurent Goumard.